On va passer tout de suite à notre collègue Jean-Luc Huéto, qui est le médecin neurologue, qui va nous dire que tout cela, c'est du rêve.
Oh, j'ai pas si mauvais esprit que ça.
Et que la réalité est beaucoup plus difficile.
Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je vais essayer de vous parler des enjeux de la neuro-régénération dans la maladie de Parkinson. Je prends ce modèle de maladie de Parkinson que je connais. Ma collègue a essayé de vous expliquer la suivante. Ce que c'est... Tu veux bien avancer un peu ? Ce que c'est que la maladie de Parkinson. Donc, schématiquement, elle a expliqué donc qu'elle était liée à une dénervation entre une zone qu'on appelle la substance noire et une autre zone qu'on appelle le striatum. Et cette dénervation provoque les symptômes de cette maladie qui donne un ralentissement du mouvement qu'on appelle l'akinésie, qui donne une raideur dans les gestes qu'on appelle la rigidité et qui donne un tremblement qui est ce fameux tremblement qu'on voit. L'akinésie est aussi le faciès figé. Hein, vous avez tous en mémoire les images de Jean-Paul II à la télévision où il avait le faciès très inexpressif, une grande lenteur du mouvement. Et sur ce schéma ici, chez l'homme, on peut imager, entre guillemets, ces anomalies en mesurant, en termes fonctionnels, dans la zone qui doit être innervée, le degré d'innervation. Et ici, vous voyez que l'innervation, c'est les sujets normaux, est particulièrement satisfaisant dans cette zone qu'on appelle le striatum. Et ici, vous voyez que chez un patient, au début, il y a un défect ici de ce côté par rapport à là, ce qui traduit en fait une dénervation partielle. Et puis avec l'évolution, là c'est un patient débutant, là c'est un patient modérément évolué, et là c'est un patient très évolué. Et donc avec l'évolution, il y a une dénervation qui s'accentue, le code couleur est simple, ce qui est en rouge est très innervé, ce qui est en jaune est dénervé. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ça passe du rouge progressivement pour atteindre le jaune, pour dire qu'il n'y a plus de cellules dopaminergiques. Et avec le temps, donc, les symptômes deviennent de plus en plus sévères. Et donc l'enjeu, évidemment, il y a des traitements médicamenteux pour restaurer cette fonction, parce que la dopamine est comme une hormone qui manque. Il y a des traitements qu'on peut prendre par la bouche, qu'on appelle des traitements substitutifs, qui apportent un soulagement, mais avec des risques de complications. Et dans l'idéal, le rêve pour nous, médecins, serait de substituer et de réparer, de régénérer ces cellules qui dégénèrent. Et avec tout ce qu'on vous a montré, ça a été fait dans ce modèle de maladie de Parkinson comme dans d'autres modèles. Et je vais essayer de vous exposer quelles sont les limites pratiques de la mise en jeu de cette technique et quel est le chemin qui nous reste encore à parcourir. Par exemple, ça a été fait, elle vous l'a montré, Afsané chez les animaux, et chez l'homme ça a posé des problèmes notamment de viabilité du greffon. On l'a bien montré ici avec ce patient transplanté où on voit qu'il y a ici une reprise du greffon avec une efficacité clinique de l'ordre de 30% d'amélioration, mais dans ce qu'on appelle des études ouvertes. Ce qu'on appelle des études ouvertes, c'est des études où les patients sont malades, on les opère, ils savent qu'ils sont opérés, on implante les cellules ici qui sont des cellules embryonnaires et on les examine pour regarder ce que ça donne. Et quand on fait ça, on a trouvé beaucoup de résultats positifs et favorables, mais avec un bénéfice qui était au maximum de 30% d'amélioration. La suivante. Alors vous savez, on fait aujourd'hui la médecine par la preuve, et le gold standard de la médecine par la preuve, c'est de faire des études en double aveugle où ni le médecin qui évalue l'effet du traitement ni le malade n'a conscience ou ne sait quelle est la nature et le type du traitement. Et donc, c'est comme ça qu'on teste tous les médicaments qui sont sur le marché. Et il faut que les médicaments aient montré leurs preuves par rapport à un contrôle qu'on appelle le placebo, puisque vous savez que l'effet placebo peut nous améliorer jusqu'à 30 à 40%. C'est dire qu'un traitement, pour faire son efficacité, doit montrer qu'il fait mieux que le placebo. Rien que de savoir que vous allez être amélioré peut suffire à vous améliorer substantiellement. Les détracteurs de certaines techniques ou médecines parallèles pensent que c'est comme ça que ça marche. Si c'est efficace et que ça coûte pas cher, c'est bien. Donc, on a fait une étude contrôlée qui était de prendre 74 patients. C'est des études comme ça vont faire les Américains. Dans ces 74 patients, ils ont fait ce qu'on appelle une randomisation. Ils ont tiré au sort ceux qui allaient recevoir la vraie transplantation et ceux à qui on allait ouvrir le crâne sans faire la transplantation. Donc quand on vous ouvre le crâne, vous imaginez qu'on vous a traité, évidemment. Et c'est ce qu'ils appellent donc la sham surgery. Et quand ils ont fait cette technique, ils ont vérifié la fonctionnalité du greffon en faisant l'imagerie fonctionnelle que je vous ai montrée sur la plaque précédente. Et donc on fait 50-50 au hasard, on tire au sort les patients. Il y a un lot de patients à qui on fait le vrai traitement et un lot de patients qu'on opère vraiment, à qui on ouvre le crâne et qu'on referme sans rien mettre comme produit, comme traitement. Et à 12 mois et 24 mois, on compare les deux groupes de malades pour voir qui étaient ou qui sont les plus améliorés. Et cette étude a eu la surprise de démontrer que les malades qui n'avaient pas reçu de transplantation allaient beaucoup mieux que ceux qui étaient traités. Patatras. Ce qui veut dire qu'en substance, quand on fait cette procédure et qu'on est dans une situation qu'on appelle double aveugle, ça ne marche pas. Et les malades qui avaient même reçu la transplantation allaient un peu moins bien puisqu'ils développaient certaines complications qu'on appelle des mouvements anormaux provoqués par le traitement, alors qu'ils ne recevaient pas de traitement. Autrement dit, ils ont d'ailleurs dû être traités et soulagés par une autre technique qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Et donc, autrement dit, ça posait un problème, et c'est l'un des enjeux de la technique de spécificité. Tout se passait comme si, effectivement, il y avait eu une bonne connexion qui était refaite, notamment quand le greffon avait pris. Mais cette connexion n'avait pas été en mesure de restituer toute la subtilité du fonctionnement des ramifications cérébrales qui sont extrêmement complexes. Et c'est ce que nous appelons le problème de spécificité fonctionnelle de ce greffon. Et ça, c'est l'un des enjeux, en tout cas à nos yeux, de ce traitement qui a été bien démontré par cette étude, qui méthodologiquement paraissait tout à fait irréprochable et qui montre bien la limite de l'application de cette technique, puisque chez 74 patients, finalement, les placebos sont beaucoup mieux améliorés. Donc ceux qui n'ont pas de traitement et qui pensaient qu'ils avaient un traitement, voire la puissance de l'esprit, par rapport à ceux qui en ont eu vraiment. Alors, ce qui voulait dire en fait qu'il y avait une restauration de l'innervation dopaminergique, mais qu'elle n'était pas physiologique. Voilà. Et ça, c'est l'un des enjeux du traitement, la suivante. Alors, pour résumer, je ne vais pas plus m'attarder. Voilà un peu les chemins, je pense, qui restent à parcourir. Et je vais essayer de simplifier au maximum. C'est premièrement, vous avez compris que ces cellules, elles sont immortelles, les cellules souches. J'espère que vous avez perçu ça. C'est des cellules immortelles qui, à la base, ont un potentiel de se développer pour devenir, entre guillemets, des cellules mortelles, soit du cœur, soit de la peau, soit du cerveau. Eh bien, l'un des enjeux, c'est qu'est-ce qui va déterminer comment bien les cultiver pour que, quand on va mettre un greffon dans le cerveau d'un patient, qui ne reste pas, même si on a la conviction que ces cellules ont été dirigées et ont été élevées pour devenir des cellules nerveuses avec une fonction précise, comment faire que parmi elles, il ne reste pas un élément qui reste immortel et qui provoque un dommage? Parce que vous savez ce que c'est qu'une cellule immortelle? C'est une cellule cancéreuse en substance. C'est ça la substance, c'est ça la définition entre autres. Et là, dans les expériences, certaines des expériences qui ont été faites, elles ont été limitées par le fait que si certains des greffons fonctionnaient bien, ça pouvait être limité par la constitution d'une prolifération de cellules souches qui formaient en fait un îlot cellulaire qui n'était pas celui qui était souhaité. Ce qui veut dire que là, il reste encore des enjeux. Et deuxièmement, en dernier lieu, l'un des éléments importants, c'est comment faire que, même s'il y a une intégration anatomique remarquable, comme l'a montré ma collègue sur ces images de souris vertes, c'est très... ce qui est un travail absolument remarquable et innovant, il reste à montrer qu'au point de vue fonctionnel, en tout cas chez l'homme, ça s'accompagne d'une bonne réponse et d'une bonne restauration de la fonction qui est perdue. Et l'exemple de l'étude que j'ai citée avant montre un peu le chemin qui reste à parcourir. Donc en substance, en tout cas à mes yeux, assurer un parfait contrôle du développement de ces cellules et apprendre à les diriger et à leur faire faire ce qu'on souhaiterait vraiment qu'ils fassent et pas autre chose, et avoir les moyens de contrôler ce qu'ils font, et deuxièmement, avoir les moyens de s'assurer qu'une fois qu'elles sont en place, elles s'intègrent parfaitement dans la subtilité extrême de la mécanique cérébrale pour permettre de restaurer la fonction déficiente. Et ça, c'est un enjeu important, et je pense qu'on a besoin encore de travailler un petit peu pour être parfait dans ce domaine-là. Alors, la suivante. Et je voudrais compliquer un peu les choses en vous disant que, en substance, si les perspectives sont prometteuses, cette technique, en tout cas chez l'homme, doit faire la preuve encore de leur sécurité, de leur spécificité. C'est ce que j'évoquais avec l'intégration à la spécificité fonctionnelle anatomique. Elle doit faire la preuve d'une amplitude d'amélioration suffisante parce que, là, vous avez vu que les améliorations dans les études ouvertes qui n'étaient pas en aveugle étaient de l'ordre de 30%. On a besoin d'avoir une amélioration beaucoup plus importante pour que ce soit justifié d'apporter, faire des opérations, d'ouvrir le cerveau pour améliorer les gens. Et donc, il faut qu'il y ait donc un ratio bénéfice-risque acceptable. Et enfin, il faut avoir conscience que dans ces maladies-là, comme par exemple dans l'exemple de la maladie de Parkinson, au-delà de la perte en cellules dopaminergiques, il y a d'autres systèmes qui dégénèrent. Il n'y a pas que la dopamine. Dans la maladie de Parkinson, par exemple, c'est la dopamine qui donne essentiellement la raideur, le tremblement, etc. Mais cette maladie est associée aussi à des problèmes de marche, d'équilibre, parfois à des problèmes de fonctionnement intellectuel. Et il y a d'autres systèmes de neurones qui dégénèrent. Et c'est ces systèmes-là, pour nous, médecins, qu'on a besoin de régénérer parce que c'est dans ces domaines-là qu'on a des traitements un peu moins efficaces et un peu moins performants. Et donc, c'est aussi un enjeu. L'enjeu n'est pas que dopaminergique, il est bien au-delà. Et donc, pour conclure, je dirais que malgré ces limites que j'ai essayé de poser, mais qui, loin de nous décourager, donnent le chemin qui est encore à parcourir ensemble, il y a ces enjeux thérapeutiques qui sont importants. Voilà, je vous remercie, j'espère avoir été clair.
Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Nous avons compris que nous avons encore des soirées et des week-ends à passer avec Nora au laboratoire.